un oncle à moi, l'aîné de toute la fratrie, neuf frères et sœurs. Bon, ils étaient 11, mais deux sont décédés il y a très longtemps. Il reste l'aîné. Et à un moment donné, il est médecin. Et il s'est occupé très longtemps de soigner des personnes avec le Covid, en faire au mieux, jusqu'à ce que lui-même, il attrape le Covid. Déjà âgé, donc personne à risque, ça l'a pris très mal. Ça a été très mal, très dur. Ses trois enfants, sa fille et ses deux enfants, ses deux fils, ils sont tous trois médecins. La fille habitant au nord, les deux autres habitant avec lui. Ils sont entrepris de prendre soin de lui, les deux garçons en tout cas. Mais eux aussi, ils sont attrapés le Covid. Et la maman a attrapé le Covid. Et donc c'est une question quand même délicate. Eux étant plus jeunes, ça a été dur, mais ça allait. Mais c'était le papa qui était le problème. Parce que c'était très dur. Parce que les choses faisaient, voilà, ça, ce qu'il a chopé, c'était vraiment là. Le Covid, mode très dur. Ils ont tout fait. À un moment donné, ils se sont dit, il faut faire venir notre sœur aînée. Médecin, elle aussi, très douée. Elle est descendue de l'autre côté du pays, autour de 2000 kilomètres. Et à trois, ils se sont occupés de mon oncle. Et le but était tout simple, qu'il résiste. Qu'il résiste jusqu'au point où on voit, dans toute maladie, il y a un moment où c'est le pire après. Voilà, c'est bon. Et il fallait qu'il résiste, il ne fallait pas qu'il aille dans un hôpital, parce que là après tu perds un peu la trace, tu perds un peu le contrôle. Tous trois étant médecins, ils voulaient faire eux-mêmes. Ils ont tout fait, ils ont fait appel à tout ce qu'ils savaient pour pouvoir garder leur papa en vie, les machines, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils ont pu en tout cas. Il fallait qu'il résiste. Grâce au Seigneur, il a résisté. Et même s'il a encore des séquelles assez importantes, ils ont réussi à les maintenir en vie. Et maintenant, il va mieux. Mieux. Mais il est vivant. Quand nous tombons malades, nous voulons guérir. Quand les choses vont mal, nous espérons qu'elles s'améliorent. Quand la tristesse nous accable, nous espérons en des jours meilleurs. Quand nous sommes dans une impasse, nous désirons, nous implorons, nous crions, nous espérons pour que de l'aide nous arrive n'importe d'où, mais que de l'aide arrive. Combien de films jouent là-dessus? Certainement, vous avez déjà vu des films où c'est l'humanité entière qui se bat pour survivre contre la maladie, contre les catastrophes, contre les guerres, contre les aliens parfois. Mais il faut toujours, à chaque fois, qu'on résiste, qu'on survive. On dirait que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre humain. Combien de récits des condamnés à mort qui attendent être graciés jusqu'à la dernière minute. Ce désir que les choses changent, que ce qui se profile à l'avenir de façon certaine, finalement, n'arrive pas. Même sentiment que Jésus a ressenti la veille de sa mort au Gethsémané, quand il a crié « Père, Père, si c'est possible, fais que cette coupe s'éloigne de moi. » Ce sentiment de « Je ne veux pas l'issue fatale. » Dieu lui-même, il connaît ce sentiment. On dirait, comme je dis, que c'est inévitable. Que nous voulons toujours rester vivant, garder ce que nous avons. On dirait qu'on est incapable de nous résoudre à une existence que nous imaginons, que nous aimerions meilleure. Comme l'a dit un de mes professeurs de théologie, Richard Lehmann, une vie sans espérance est une vie inhumaine. Il nous faut un horizon pour rester debout, une étoile pour nous guider et pour guider nos pas. L'espérance, c'est le bien propre de l'homme. Rien que pour l'année 2020, qui n'est pas encore finie, notre agence humanitaire ADRA, que vous connaissez bien, et seulement je parle de ADRA Belgique, elle a porté et continue à porter secours à des populations dans la détresse en Mauritanie, au Yémen, en Somalie, en Inde, en Bangladesh, au Liban. Et tristement, je suis sûr que ça va s'allonger cette année encore, parce que les malheurs dans le monde, ça ne s'arrête jamais. Les organisations humanitaires qui portent très bien leur nom, humanitaires, comme ADRA, c'est des organisations convoyeuses de bien-être, de bonnes nouvelles d'avenir. C'est des organisations porteuses d'espoir. Quelque part, nous avons tous besoin de continuer à espérer. Car là où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais alors la question se pose, si jamais j'arrive au désespoir, comment est-ce que j'ai pu échapper au désespoir? Certains choisissent les drogues, d'autres choisissent une drogue beaucoup plus pernicieuse, l'alcool. D'autres se plongent dans le travail pour ne plus rien penser, dans le médicament. D'autres encore vont voir les diseurs de bonne fortune. Mais quoi faire quand les diseurs du futur vous prédisent un mauvais avenir? Quoi faire? Qu'est-ce que l'homme fait quand il n'a plus d'espoir, plus d'espérance? La Belgique, elle n'a pas un record, mais elle n'est pas loin d'être un des pays européens où il y a plus de suicides par année. Plus de 2000 suicides par année. Il n'y a que quelque peu de pays de l'Est qui ont plus de suicides par année que la Belgique. Voici l'extrait d'un article qui est apparu le 23 juin 2020 sur le journal Le Soir, sur Internet. En Belgique, plus de 2000 personnes se donnent la mort chaque année. Un problème de santé publique majeur qui pourrait s'aggraver dans les prochains mois suite au coronavirus. Il fait allusion à quand on est resté confiné. En Europe, seuls quelques pays de l'Est affichent pire bilan. Dans les tranches d'âge 15-24 et 45-44 ans, il s'agit même de la première cause de mortalité de notre pays. Le suicide. C'est traité, c'est vu comme un problème de santé, bien sûr, et ça en est un. Mais je pense que ce n'est pas moins un problème de l'âme. Maintenant, quelle réponse donner à ceux qui ont vu leur être cher partir parce qu'ils n'ont plus eu la force, le moyen de vivre faute d'espoir? Comme on dit, quelqu'un pourrait citer un de ces dictons bien conçus, bien sûr, l'espoir fait vivre. Oui, mais vivre n'est pas toujours une partie de plaisir. Ou on pourrait encore dire, d'accord, mais tant qu'il y a la vie, vous connaissez la suite, il y a de l'espoir. D'accord, mais comment maintenir l'espoir dans l'adversité tout le temps? Plus facile à dire qu'à faire. Comment le faire dans la solitude, par exemple, causée par le Covid, causée par l'enfermement qu'on a dû vivre, justement, mais qui a été quand même une source de souffrance. Samedi dernier, j'étais dans mon église, dans une de mes églises, il y a une toute vieille dame qui s'est approchée de moi. Vous savez, en principe, les personnes âgées, on leur conseille, on leur dit, restez à la maison. Ne vous exposez pas inutilement. Cette dame, elle est venue. Et d'autres personnes âgées sont quand même venues à cette église-là. Elle m'a vu arriver, entrer dans l'église. Elle est venue droit vers moi. Des larmes dans les yeux. Elle m'a dit, vous savez, ça a été très dur. Ça a été très dur d'être à la maison, seule. Ça a été très dur de ne voir personne. Ça a été très dur de ne pas pouvoir aller dans l'église, voir mes frères et mes sœurs, pouvoir recevoir cet encouragement spirituel, prier avec, chanter avec. Elle m'a dit, j'ai failli tomber dans la dépression. Et j'ai regardé cette vieille dame, toute menue, toute fragile, qui a préféré venir à l'église, bien sûr couverte, que de rester un sabbat de plus seul à la maison. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que cette dame et eu la force de lutter comme un titan contre la solitude, contre cette souffrance insidieuse. La seule réponse que j'ai eue, c'est qu'elle s'est accrochée à l'espérance. Voici encore une citation de Richard Lehmann. Aussi admirable que soit la grandeur de l'espoir, il n'est guère comparable à l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne est accessible à tous et loin de requérir une force de caractère hors du commun, elle fait au contraire naître la vie où régnait le silence, sourdre le courage où s'étalait la défaite, naître la paix où grognait la révolte, jaillir la joie même dans l'épreuve. Le plus démuni des humains peut renaître au service de son prochain dans la lumière de l'espérance. Ainsi, l'apôtre Paul, du fond de sa prison, se réjouissait de pouvoir donner sens à ses souffrances. Il écrivait aux Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » L'apôtre Paul n'était pas un masochiste qui se plaisait à souffrir. Mais s'il pouvait découvrir dans ses souffrances, dans ses peines, les germes d'une vie nouvelle. Paul avait l'espérance. Et comme le dit l'épître aux Hébreux, cette espérance, nous l'avons connue, c'est une ancre solide et ferme pour l'âme. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Maintenant, bien sûr, pour utiliser et continuer dans cette image que la Bible nous donne, si l'espérance, c'est l'ancre qui nous aide à tenir, à quoi s'accroche-t-elle? Parce qu'aucune ancre, aucune ancre ne peut remplir sa fonction si là où elle s'accroche, c'est quelque chose de solide. À quoi s'accroche-t-elle l'encre de l'espérance? Assez simple. Et la Bible nous donne aussi une autre image qui tombe à pic. Avez-vous déjà entendu parler du roc, le rocher, le Christ? Notre espérance, elle est telle parce qu'elle s'accroche au rocher vivant, au Christ, à notre Seigneur. Elle s'accroche aux hauts faits de notre Seigneur. Quels sont les hauts faits de notre Seigneur? On pourrait en citer plein. Le Seigneur, il nous guide, il nous délivre, il nous accompagne, il nous bénit dans le meilleur comme dans le pire. Soit que nous guérissions, soit que nous devions voir nos êtres aimés s'endormir du sommeil des justes. Autrement dit, même quand on doit voir mourir nos êtres chers, cette espérance tient bon. Mais ça serait un peu illusoire, je pense, que de se dire, mon espérance, elle est forte parce que Dieu est intervenu dans ma vie. Pour moi, ce n'est qu'un aspect de la force de cette espérance. L'espérance chrétienne, elle est forte, non parce qu'elle s'appuie sur ce que Dieu a fait dans ma vie, mais parce qu'elle s'appuie surtout en celui qui l'espérance incarnée lui-même, le Christ. C'est le Christ qui est notre espérance, lui-même. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui l'a encore dit, et c'est formidable comme il a décrit. Il a dit quand nous recevons l'Esprit et la sagesse d'en haut, quand le Seigneur illumine nos cœurs, nous pouvons comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous pouvons comprendre quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Nous pouvons comprendre quelle est la grandeur surabondante de sa puissance qu'il met à notre disposition avec force. Quand le Seigneur nous donne la sagesse d'en haut, quand il illumine nos cœurs, nous pouvons comprendre pourquoi c'est si important que Dieu ait tout mis son œuvre dans le Christ, qu'il le ressuscitait d'entre les morts, et qu'il les fait s'asseoir au-dessus de toute puissance qu'on puisse imaginer dans ce monde ou dans le monde à venir. Personne, rien ni personne, n'est plus puissant que notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Notre espérance est solide car elle est ancrée en l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a pour nous et en sa toute puissance libératrice. C'est un cœur, cette espérance, qui a poussé l'apôtre Paul à dire ce qu'il a dit si magnifiquement dans l'épître aux Romains, chapitre 8, du verset 31 au verset 39. Et je vous invite à le lire avec moi. Romains, chapitre 8, verset 31 au verset 39. Quelle est la nature de cette espérance et qu'est-ce qu'elle suscite chez les croyants quand ils saisissent la portée de ce que Dieu met à notre disposition? Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Vous y êtes? Je vais lire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargé son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis amen à cela. Notre Dieu n'est pas une utopie. Il n'est pas une invention de l'esprit. Il est encore moins pas l'opium du peuple. Notre Dieu est vivant. Il est et il restera toujours notre secours. Il nous en a donné sa parole. Et sa parole, ça tombe bien aussi, c'est le Christ. Jésus est la parole incarnée. Il n'y a pas de parole plus ferme, plus solide et plus fiable. On pourrait même dire, Dieu n'a qu'une seule parole, son Fils. Maintenant, est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Nous savons, nous tous, que... Je pense que personne n'a encore échappé à la règle parmi les humains d'avoir promis quelque chose et ne pas avoir été capable de tenir parole. Donc du coup, quand quelqu'un nous promet quelque chose, oui, mais on verra. Je ne vois pas, jusqu'à là, je ne croirai pas. Ça me fait penser à cette histoire de deux personnes. Elle s'était effrayée. Elle s'était terrifiée à l'idée d'avoir été trompée par l'ennemi et de devoir faire face à celui qui les avait envoyés, celui qui leur avait donné la mission. Sans doute, ils le savaient. La sentence serait la peine capitale. Alors, dans le vertige qui produit le fait de savoir que tu as tout fichu en l'air, que tu t'es royalement trompé, que tu as été au-delà de tes prérogatives pour tirer, espérant tirer un petit avantage ou un grand avantage personnel. Avec ce désespoir et ce vertige, dans un geste insensé, ils ont essayé de se cacher, espérant que personne ne les trouve, espérant ne pas devoir faire face aux conséquences de leurs mauvais choix. Ils étaient tombés dans le piège complètement. Mais c'est justement le commandant en chef qui les a trouvés, personne d'autre. Et dans un dernier espoir, en tout cas, ils ont essayé de refouler la faute. Mais non, c'est pas moi. Vous savez comment on fait à chaque fois qu'on nous prend en plein délire. Non, c'est pas moi, il y a des atténuantes, c'est l'autre qui m'a poussé. Voilà, très humain. Mais quelque part, quoi faire devant le commandant, ton chef? Les règles sont les règles. Les lois sont les lois. Et alors qu'il s'attendait à recevoir la sentence de mort qu'il méritait et qu'il savait avoir mérité, ils ont entendu le Seigneur leur dire qu'il y avait une espérance. Pas tout était perdu. Bien sûr, ils avaient commis une grande erreur, la plus grande erreur de leur vie. Mais Dieu allait pouvoir apporter une solution, bien sûr. À cause d'eux, Satan allait prendre le dessus sur la terre. Il allait ravager la terre. Mais s'il a dit, le Seigneur, il a promis que de la descendance de la femme surgirait quelqu'un qui allait écraser Satan. Maintenant, Adam et Ève avaient déjà, la première fois, décidé de ne plus avoir confiance en Dieu. Quand ils sont faits à leur sauce, est-ce qu'ils allaient faire confiance à Dieu cette fois-ci qu'il promettait une nouvelle chose? Ou encore, peut-être la question, on devrait la tourner différemment, est-ce que Dieu lui-même avait les moyens de maintenir la promesse qu'il avait faite? Est-ce qu'il aurait pu maintenir cette promesse selon laquelle quelqu'un de la descendance de la femme allait finalement terrasser Satan? L'apôtre Paul l'a dit dans l'épître aux Galates, chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Ce fils, sur la croix, a triomphé sur Satan, a triomphé sur le mal, a triomphé sur le péché. Dieu avait tenu parole. Jésus est la parole de Dieu. Et je répète, il n'a rien de plus fiable que la parole que Dieu donne. Nous pouvons avoir confiance en lui. Notre verset de base disait et dit encore, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce qui veut dire, le Seigneur a déjà prévu pour toi une couronne. Ça ne dépend que de toi. Maintenant, est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Vous le savez, la confiance ne peut naître que comme le résultat, comme le fruit de la relation. Plus la relation est intime, plus la confiance est grande. La délivrance promise par Dieu, autant opportun, dit l'Épître aux Hébreux, en fait, elle ne nous est donnée que par la foi que nous plaçons en Christ. Autrement dit, par la confiance que nous avons en lui, la confiance qu'il nous écoute, la confiance qu'il nous sauve. Vous savez, c'est lui qui traverse la vie en ayant confiance en Dieu, pourra se relever autant de fois qu'il le faudra, car il aura bien plus que des forces, il aura bien plus que d'espoir, de l'espoir, il aura l'espérance en Christ. Elle est comme ça, l'espérance chrétienne. Disponible pour faire vivre celui qui n'attend plus rien de la vie, pour le faire renaître. Autrement dit, il n'y a pas de situation où l'espérance ne puisse pas apporter quelque chose. Mais, comme je viens de le dire, la confiance ne peut naître que dans la relation. Dans la relation avec Jésus. Notre relation avec lui doit être une relation qui n'est pas basée sur ce que l'on a entendu dire de lui. Ah oui, le Seigneur c'est ci, le Seigneur c'est là, le Seigneur agit dans ma vie, le Seigneur a répondu à ma prière. Ça, d'accord, je peux savoir de Dieu. Je peux savoir qui il est. Ça ne veut pas dire que je le connais. On sait tous qui est... Oh, peut-être pas tous, on sait, quelques-uns de nous savons qui est le Premier ministre maintenant en Belgique. Heureusement, on en a un. Espérons que ça dure longtemps. Bref, Vous avez probablement lu son nom, vu son image, donc vous savez qui il est. Ça ne veut pas dire qu'on le connaît. C'est la même chose avec Dieu. La confiance en Dieu ne pourra pas se développer parce que tu sais qui est le Seigneur. Tu ne pourras développer cette confiance que si tu as une relation intime, constante avec lui. Et c'est dans la vie de tous les jours que le Seigneur se propose de nous rencontrer pour qu'on puisse développer cette relation, cette intimité, cette confiance. Et il se propose à nous quand les choses vont bien, mais c'est malheureusement quand les choses vont mal qu'en général on est plus disposé à laisser que son esprit nous appelle. Ou plutôt à écouter cet appel, à entendre l'appel, parce qu'il nous appelle toujours. Quand les choses vont mal, là oui, j'ai besoin d'aide, Seigneur. Ah oui, là je vais prier. Là je vais me rappeler, là je vais me rapprocher. Vous feriez quoi, vous? Vous feriez quoi, vous, si un collègue de travail, un ami, ne venait vous voir que quand il avait besoin d'aide? La première fois, vous l'aideriez, je suis certain. La deuxième aussi, peut-être la troisième, et la dixième, et la vingtième, et la centième. Et chaque fois, ce n'est que pour demander de l'aide. J'ai besoin d'eux. Vous savez, il y a certaines personnes qui vivent cela. On ne les appelle que parce qu'on a besoin d'eux. Vous savez ce qu'elles finissent par dire? Qu'est-ce que vous finiriez par dire? Je n'ai pas besoin de vous dire. Je pense que nous, on arrive à la même conclusion. Et pourtant, quand nous venons vers le Seigneur dans nos besoins, il ne nous dit pas la même chose. Tout ce que nous avons besoin pour pouvoir établir une relation réelle avec lui, une relation intime, c'est de lui faire confiance, d'écouter ce qu'il nous dit et de nous approprier des promesses qu'il nous a déjà laissées dans la Bible, comme celle-ci magnifique qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 6. Ésaïe 41, verset 6. Tu viens vers le Seigneur, tu l'ignorais toute ta vie parce que, grosso modo, ça allait bien, quoi. On n'a pas besoin du Seigneur. C'est du travail, j'ai mes médicaments, j'ai une famille, j'ai des amis, voilà, je me suffis moi-même. Mais quand le moment arrive, et on n'a pas d'autre choix que de nous retourner vers lui, voici comment il nous reçoit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène des regards inquiets, car je suis ton Dieu. J'ai besoin de me rapprocher de Dieu par Jésus, car c'est le seul moyen de rencontrer celui que Moïse a décrit comme miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité. Ah non, pardon, c'est pas Moïse qui l'a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit cela de lui-même. Riche, miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité. Voilà le Dieu, voilà le Seigneur que je peux apprendre à connaître par Jésus-Christ. Mais Seigneur, la situation est telle que je doute de m'en sortir. Seigneur, mon frère, mon épouse, mes enfants, mes parents sont morts. Qu'est-ce que je peux espérer du futur? Je n'ai plus de travail. Je pense qu'on peut espérer la même chose que Job espérait, lui qui avait aussi l'espérance. Je sais bien, moi, a dit Job, que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite. Et il va continuer. De ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront et non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il pouvait perdre, Job, désormais? Il ne lui restait que sa vie et l'espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à terme, même si je meurs, moi, je le reverrai. Espérance. Telle est la profondeur de l'espérance chrétienne. J'aime bien citer aujourd'hui mon ancien prof. Telle est la profondeur de l'espérance chrétienne. La venue de Jésus et sa résurrection entre les morts témoignent que Dieu est amour. Au-delà des misères de cette vie, l'amour triomphera un jour de la mort. Celui qui a rencontré Jésus-Christ n'a pu que voir son espérance devenir une certitude. Jésus l'a promis. Il reviendra pour vaincre définitivement le mal. La bienheureuse espérance portée par l'attente de la manifestation de Jésus dans la gloire ouvre les yeux sur des horizons qui chantent, quelle que soit la réalité actuelle des choses. En fait, Dieu se présente comme la base, comme la source, comme la raison d'être de notre espérance. Dieu lui-même. Je viens bientôt, il a dit. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus revient bientôt. C'est une certitude. Il l'a promis. Il a demandé que nous vivions, en adéquation avec cette promesse. Il a demandé que quoi qu'il arrive, nous lui fassions confiance. Et c'est ce que nous faisons. C'est là notre force. La force du chrétien, ce n'est pas que nous avons de l'espoir. Nous avons bien plus. Nous avons une bienheureuse espérance. Puisse le Seigneur nous porter par cette espérance. Amen.